Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. S12E02. Voilà, c'est parti. Oh non, mais c'est bien, ça fait série, tout ça.
Point avis.
MKV. Au programme cette semaine, on n'y manque pas, hein, évidemment, c'est la date, c'est cette année, c'est toujours la même, c'est l'émission spéciale NBA 2K19. Je vous avais pas prévenu.
Non, j'étais pas
prévenu. Je suis choqué psychologiquement.
Non.
Je rigole, j'ai pas joué assez. Donc, on va changer le programme. Au programme cette semaine, c'est Tiniental, Gleipnir, Behind Every Great One, Shadow of the Tomb Raider. Et on finira sur Shenmue 1 et 2 HD. Voilà. Vous essayez de deviner qui va nous en parler, hein, autour de la table.
C'est pas évident.
Non, c'est pas évident, mais pourquoi? Et puis, le reste du programme, vous connaissez le com des coms, la chronique jeu de plateau de Jérémy. Et puis voilà, je commence en accueillant donc deux de mes chroniqueurs favoris et une chroniqueuse qui va pas tarder à devenir chroniqueuse favori. Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Corentin Benoît Gonin, décroissant, bonjour.
Ah moi, pardon, bonjour.
Bonjour Corentin. Et Camille Suard qui fait sa entrée dans Silence on joue. Bonjour Camille.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Camille Suard de Video Gamer, entre autres.
Entre autres.
On te retrouve à plein d'endroits différents, mais Video Gamer en ce moment. Voilà, c'est parti. Et on va commencer avec toi, Patrick, avec Alone. Alone in the Dark.
Et oui, on savait qu'il y avait des soucis autour des droits Alone in the Dark. On se rappelle, hein, ce survival original du début des années 90, donc qui a été piloté par
Fondateur
qui a lancé la vague. On sait que Resident Evil s'en est inspiré. Enfin voilà, c'est le jeu du début des années 90 qui a propulsé Frédéric Reynal, qui avait été édité par Infogrames depuis, et ensuite Reynal est parti d'Infogrames lorsque la suite a commencé à se mettre en place, et puis depuis il y avait des contentieux sur les droits de la licence Alone in the Dark, qui a continué son chemin chez Infogrames mais sous d'autres responsables de développement. La série a suivi un autre cheminement, mais voilà,
avec bonheur.
Il y a eu des vrais soucis. Je crois qu'il y a un dernier titre qui est sorti il y a quelques années, 2-3 ans, je crois, sur Steam, et voilà, je ne l'ai même pas vu passer. C'était assez difficile. Et puis, on savait qu'il y avait un contentieux juridique entre Reynal et Infogrames Atari, plutôt, qui est devenu Atari. Et là, on a appris cette semaine, alors dans un premier temps, que ce contentieux avait trouvé une solution. C'est-à-dire que Atari a versé une somme à Reynal, et puis des actions Atari aussi. Des actions Atari pour régler ce contentieux qui était.
Je pense qu'il peut s'acheter un mug avec.
Ça, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, voilà, ils avaient trouvé un point d'accord pour régler plus ou moins la situation autour des droits de la propriété intellectuelle de Alone in the Dark et de ce rapport de Reynal à cette création originale. Et comme par hasard, deux jours après, je crois, on a appris que THQ Nordic mettait la main sur la licence Alone in the Dark. Donc ce qu'on devine, évidemment,
THQ Nordic, qui est le nouveau nom de
Koch Media.
Core Media.
Alors évidemment, on devine que tout ça est lié, c'est-à-dire que je pense qu'Atari avait évidemment urgence de régler les problématiques légales liées à la propriété intellectuelle pour pouvoir revendre cette licence. Donc voilà, tout ça est fait. Maintenant, j'ai envie de dire, on va voir la suite. Il y aura certainement de prochains jeux Alone in the Dark. Des films, espérons que non, parce qu'il y a déjà eu deux films qui étaient assez compliqués. Moi, ce que je rêvais toujours, c'était que Reynal reprenne en main Alone in the Dark. Moi, je me suis toujours dit que ça serait chouette qu'il puisse un jour ou l'autre redonner sa vision de ce que lui entendait donner comme suite à Alone in the Dark. On est en 2018, il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de créer des environnements, des ambiances qui... Enfin, moi, voilà, je serais vraiment ravi de voir ce que Reynal ferait aujourd'hui d'Alone in the Dark.
Même si j'aime beaucoup Frédéric Reynal, c'est vrai qu'il a eu des successeurs. Il y a eu des successeurs qui ont beaucoup travaillé sur même la notion de peur, la notion d'horreur, la notion de terreur dans le jeu jeux vidéo, et on voit où ils sont arrivés. C'est vrai qu'il y a une expérience aussi, il y a des gens qui ont travaillé pendant des années et tout ça, et c'est vrai que partir du début des années 90, du milieu des années 90, et redébarquer 28 ans plus tard.
Ah non, attends, il a fait des choses entre. Il a fait Too Dark.
Super. Excellent.
C'était très bien, Too Dark. Je suis pas d'accord.
Non, mais.
Très bonnes choses. C'était pas facile. D'accord. C'était pas un jeu facile d'accès. On est complètement d'accord. Mais il y avait des très bonnes choses à en tirer.
Bien sûr, mais c'est pour revenir avec les. Alors pourquoi pas, mais avec les technologies.
Ah, en fait, évidemment.
Frédéric Reynal
est. C'est pas au programme pour l'instant.
Non, non, bien sûr. Et surtout, c'est un faiseur. C'est quelqu'un qui fait des jeux vidéo dans son garage.
Pour moi, Frédéric Reynal, c'est un mec que tu dois surtout canaliser pour sortir le meilleur de lui-même. Même parce que en effet Too Dark il y avait des bonnes idées mais dans l'ensemble voilà il y avait des soucis et surtout quand tu parles à Frédéric Reynal tu sens l'enthousiasme derrière le bonhomme, tu sens que c'est un mec mais il est passionné par le jeu vidéo. Le mec, tu vas lui demander bon alors quel moteur t'as utilisé, mais je l'ai fait moi-même mon moteur, qu'est-ce que tu crois et tout. Et bon ouais bah c'est sûr qu'on va dire que il est authentique 90 quoi, le mec il a gardé des réflexes
en tout cas,
pour le bien et pour le mal
pour
d'ailleurs
l'instant, de toute façon ce n'est pas l'ordre du jour, c'est parti chez THQ qui a aussi repris Act of War voilà qui était aussi une licence. Puis un petit mot quand même hein, sur Forza Horizon 4, l'annonce de la semaine. J'avoue que moi, le Forza Horizon 4, j'étais pas super impatient. Il est daté au 2 octobre. J'avoue que ça ne m'empêchait pas de dormir. Je l'avais pas plus repéré que ça. Puis il y a eu l'annonce d'un DLC futur avec 10 voitures de l'univers James Bond. Alors évidemment, moi, ça m'a tout de suite interpellé. Il y a des vidéos fantastiques parce que, évidemment, on pense du Bond, on pense au dernier, hein, les Aston Martin hors de prix, etc. Et non, il n'y a pas que ça. Sur les 10 voitures, il y a la fameuse deux chevaux de Rien que pour vos yeux, et il y a surtout la Lotus Esprit visiblement les gadgets qui s'enclenchent, donc ça a l'air très prometteur. Moi en tout cas, ça a éveillé clairement mon attention pour Forza Horizon 4, donc début octobre. On va suivre ça de près du coup, voilà.
Corentin, parle-nous de Fortnite.
Avant ça, juste petit atome, THQ Nordic, c'était Nordic Games et ils ont racheté Koch Media, c'était plutôt comme ça que ça s'est fait. Je voulais juste corriger ça. Oui, alors Fortnite, alors moi je parle d'habitude de PUBG, puis là je vais parler de Fortnite parce que Fortnite fait quand même des choses bien, enfin il fait plein de choses bien Fortnite, c'est pas la question, mais il y a un truc qui fait bien, c'est son lore. Parce que Fortnite raconte des histoires et les gens qui jouent pas à Fortnite s'en fichent, mais en vrai ils font ça de manière assez intéressante. Donc il faut savoir que l'univers de Fortnite a connu plein d'événements qui en fait ont marqué le monde de Fortnite.
Qui font beaucoup parler les gens aussi entre eux, il y a des mythologies, il y a des discussions.
Et c'est le mot,
c'est ça,
mythologie. Et en fait en mai dernier, si vous avez pas suivi, alors rappel des épisodes précédents sur Fortnite, voilà, il y a une comète qui s'est écrasée sur le monde de Fortnite.
Ça fait beaucoup de bruit.
Voilà, ça fait beaucoup de bruit. Alors ensuite, il y a une fusée qui a décollé, le ciel s'est fissuré, ce qui a altéré de grandes parties de la map. Tout ça, ça se fait sur plusieurs semaines.
Est-ce qu'il y a un sens ? Ou est-ce que c'est juste de l'event ?
Alors, voilà, c'est la spéculation les plus totales. Mais oui, il y a plein de chaînes YouTube uniquement consacrées aux théories les plus folles sur le lore de Fortnite, tout ça. Mais attends, laisse-moi finir, parce que du coup, il y a une fissure qui s'est formée dans le ciel. La fissure a fini par se refermer et en laissant apparaître un cube sur la map. Alors tout le monde est en mode, qu'est-ce que c'est que ce cube ? Quand tu t'approchais du cube, ton armure remontait, le cube te repoussait quand tu t'en approchais trop près, très bien. Puis le cube, il s'est mis à se déplacer. Il fait poum, poum, il faisait des. Tu sais, il faisait bam, bam, il se tompait de droite à gauche et il se déplaçait lentement sur la map. Il a fini par aller vers donc Tilted, la ville du jeu où il y a notamment ce fameux magasin de sport qui s'était déjà fait détruire par une comète, le pauvre. Il a mis une saison entière à s'en remettre, ce magasin, pour se reconstruire. Et là, le cube est arrivé, il a réécrasé, donc c'est pas cool pour le magasin. Bref, on attend peut-être une résurrection encore du magasin de sport dans la saison 6 de Fortnite. On ne sait pas, mais en tout cas, le cube est arrivé à Loot Lake. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a plongé dans le lac et il s'est dissous. Le cube s'est dissous. Et maintenant, le lac est un énorme trampoline géant.
Donc, on peut imaginer qu'il y a des types, des scripts qui travaillent là-dessus pour créer des événements. Mais c'est malin,
et
parce
moi,
que du coup, ça fait parler, ça crée...
Et ça donne envie d'y retourner dans Fortnite. Donc, c'est-à-dire que non seulement Fortnite arrive à avoir de magnifiques... mise à jour avec beaucoup de contenu.
Oui,
là, je crois que c'est... Alors, je suis pas du tout à la page, mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont intégré le fameux grappin à base de ventouses pour se projeter. Et du coup, j'ai regardé mon pote Timothée jouer, et là, je le voyais faire des acrobaties hallucinantes en faisant des headshots en passant, et il était très content. Et en effet, ça avait l'air cool parce que ce jeu est fondamentalement fun. Il est fun dans ses couleurs, il est cartoon, mais il est fun aussi dans son matériel. Oui, je sais, tu me regardes, Camille, avec des yeux réprobateurs, mais voilà, c'est et la plupart des gens pensent qu'il est fun. Moi non plus, je le trouve pas si fun, mais c'est vrai qu'il est plutôt accueillant, en tout cas. Est-ce il est plutôt coloré et
PUBG,
sympa.
Il n'y a pas de ce genre d'événement, il n'y a pas de choses bah comme ça, événementielles, enfin, pas à ma connaissance.
Non, là, ils sont trop occupés à virer les bugs, déjà, ce qui est une espèce de storyline en soi-même. Hein, le fait que
c'est
PUBG.
Un lore, c'est un lore PUBG, les bugs.
C'est un lore des bugs. Ouais. Et donc voilà, maintenant, on a Loot Lake qui est tout violet, on peut rebondir dessus et on attend le prochain événement. Qu'est-ce qui va se passer dans Fortnite? Et c'est plutôt chouette.
Ce qui est incroyable, c'est que, et je pense que c'est une particularité d'Epic, c'est qu'ils ont eu un succès complètement inattendu et stratosphérique avec Fortnite, et j'ai l'impression qu'ils savent quoi faire du pognon. Ouais, et c'est pas tant que ça de monde, hein. c'est qui se retrouve avec un jackpot incroyable et qui savent le réinvestir.
Ouais. Bah, qui savent entretenir la machine,
et ils ont annoncé plein de choses, notamment sur les gens qui utilisaient le moteur Unreal, sur les gens qui mettaient des éléments. En fait, il y a une boutique d'éléments une bibliothèque où les graphistes peuvent mettre des éléments à vendre aux autres utilisateurs. En fait, c'est un store d'éléments Unreal à vendre, et ils ont annoncé une augmentation de la part reversée aux créateurs, enfin une diminution de leur propre part. Enfin voilà, ils utilisent, oui, on fait du pognon avec Fortnite, mais on l'utilise, c'est toujours assez.
Ouais, ils ont une vision à long terme.
Voilà. Avant Fortnite, ils allaient pas mal.
Ah non, mais justement, c'est pour ça que c'est une entreprise. Mmh. Ils savent l'utiliser. Quoi. Ils sont pas dans les étoiles, et ça fait plaisir. Camille, c'est évidemment une des news marquantes de la semaine, la PlayStation qui revient.
Et oui, Sony a annoncé la fin de la PS Vita pour 2019 et en a profité pour montrer une nouvelle console. Alors après la NES Mini, la Super NES Mini, la future Mega Drive Mini et même la Neo Geo Mini, voici la PlayStation classique. Alors Sony a cédé à la tentation de la nostalgie et du rétro gaming, et on les comprend puisque ça paye quand même. La NES Mini est un carton, elle se vend comme des petits pains, ils ont même renouvelé le stock. Donc on aura une version pour le Japon, une autre pour l'Occident avec une vingtaine de jeux classiques, légendaires, tout ce qu'on veut. On aura du FF7, du Tekken 3, du Wild Arms, du Jumping Flash. Pour la suite, il faut attendre un petit peu pour avoir le reste du catalogue. Alors, la bête sera vendue le 3 décembre prochain pour la modique somme de 100 euros.
Quoi ?
Eh oui, 100 euros.
Deux manettes,
sérieusement ?
Non, manettes vendues séparément, je crois.
Ah non, je crois qu'il y a deux manettes.
Non,
par contre, ce sont les...
Ah non, non,
non, il y en a une qui est vendue.
C'est le chargeur qui est vendu, pareil.
Non, je crois qu'il y a deux manettes. Par contre, ce sont les manettes première génération de 94-95, où il n'y a pas de stick analogique. C'est un peu old school, les manettes. Hein, c'est vraiment les manettes de la première... PlayStation, donc...
Oui, bah pour les jeux de combat, c'est bien. Hein. Ouais, bon, alors, stop.
Moi, je craque. Hein. Je vous avais parlé la semaine dernière de mes réserves sur la Neo Geo Mini, avec déjà son prix à 130 et quelques passés. Bon,
sachant qu'il faut acheter un mini HDMI, il faut acheter ça, les manettes.
Si on veut jouer sur...
Oui, autant là, c'est assez horrible. Un HDMI, parce qu'avec toutes ces mini consoles en bas de ta télé, ou dans t'as plus de place pour les brancher.
Après, c'est marrant parce que c'est la version arcade de la Neo Geo, donc c'est assez rigolo, mais c'est un tout petit écran. Ouais. Je sais plus combien de pouces, mais c'est ridicule.
On verra. En tout cas, moi, je trouve PlayStation, ils sont un petit peu sous la barre des 100 euros, qui pour moi est la limite à ne pas passer pour ce genre de.
C'est 99 euros.
Sur 99, ils sont à la limite.
On verra pour la N64 mini.
Bah, du coup, ça sera pas pour tout de suite, a priori. Moi, je vais craquer, clairement. Parce que, encore une fois, là, c'est plus le cerveau qui fonctionne, c'est le cœur, c'est les souvenirs, il y a une sorte de d'automatisme. Ah bah on va voir la machine, elle nous a tellement marqué.
Là, ça sera vraiment une expérience authentique parce qu'on aura vraiment du coup, comme tu disais, la manette première génération.
Ouais.
Après tous les jeux, on les retrouve déjà sur le store.
Les
jeux auxquels on a rejoué si on avait envie, on avait déjà la possibilité d'y rejouer. Et je pense en fait, je me faisais la réflexion quand j'ai vu l'annonce, c'est que autant la NES Mini, la Super NES Mini par exemple, en fait c'est
du cartoon, hein, même.
Il y a du pixel, finalement le pixel a bien vieilli,
bien sûr.
Le pixel vieillit bien, hein. c'est une valeur sûre, le pixel
déjà c'est étiré.
Alors que le polygone, Erwan, il vieillit pas du tout, le polygone.
Mais exactement. le poly de la première PlayStation, il est laid. Il est d'une laideur infâme. Je suis désolé.
Ça a très mal vieilli.
Et donc, du coup, pourquoi ça a très très mal vieilli parce que on se rappelle que PlayStation a fait le forcing. Le PlayStation, c'est PlayStation qui a tué le pixel. C'est PlayStation l'assassin du pixel et qui a refusé d'avoir du pixel sur sa console. Et donc il fallait que les développeurs fassent du polygone tout pourri. Rappelez-vous, la gestion de la caméra est très déplorable sur ce jeu. C'était à toutes les critiques. Hein. Tous les critiques de jeu de l'époque ont critiqué la gestion de la caméra parce qu'ils ne savaient pas faire. Et donc, ça a tellement mal vieilli que pour moi, ça a pas. On arrive aux limites de la nostalgie.
C'est normal parce que la 3D, forcément, elle avait tout à apprendre et à évoluer, alors que la 2D, bon, bah voilà.
Bien sûr.
En même temps, tu relances à FF7 aujourd'hui, il y a un charme, mais qui est surtout lié à ton vécu de joueur.
Encore une fois,
FF7, il est anguleux dans tous les sens, les persos sont taillés à la serpe. Mais il y a quand même un truc, parce que tu as tellement vécu ces jeux à l'époque. Ouais. Enfin, moi, c'est viscéral. Voilà. Mmh. Encore une fois, c'est plus le cerveau. C'est vraiment une réaction de « Ah bah ouais, ça me touche parce que c'est toute une époque. Ouais. C'était il y a 20 ans. Voilà, »
La nostalgie, elle glisse. Je pense que ça va toucher un autre public, c'est tout. Et il faut se méfier. En ce moment, il y a une esthétique 32 bits qui revient.
Ouais, ça marche. C'est vrai, ça serait
logique.
Bon, puis sortie HDMI. Il y a aussi un petit confort d'utilisation qu'on a pu sur une PlayStation d'origine.
Les autres consoles arrivaient à garder un intérêt ludique en plus de la nostalgie. Et là, on est clairement sur uniquement la nostalgie. C'est la nostalgie.
T'as du bon jeu, le Ridge. C'est le Ridge 4. T'as du Wild Arms. C'est plutôt des bons crus. Après, on verra la suite. On a que quelques titres.
Ouais,
on verra sur la
vingtaine. PlayStation, c'est ma console de prédilection. Donc bah, attention. Hein.
Mais moi,
je pense que la ludothèque est quand même...
Mais bon, il y a 20 jeux. C'est tout.
Oui, on verra. Ouais.
D'ailleurs, on a appris que la Mega Drive Mini est repoussée à l'année prochaine. A priori, ça a l'air compliqué. Hein, la Mega Drive Mini, il y a eu des précédents... de console mini Sega Sega qui n'était pas forcément terrible.
Le com des coms de la semaine dernière, je passe sur les bons retours et bonnes rentrées qui ont été multipliées. Hein. Vous avez été nombreux à nous dire ça et ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de recommencer dans cette rentrée, cette 12e rentrée de Silence on Joue. On commence avec Oyoyo qui nous dit comme Dead Cell a fait beaucoup de bruit, je réinsisterai de mon côté sur le portage d'Hollow Knight que vous avez évoqué aussi. C'est vraiment un petit bijou sur tous les points. DA, gameplay, son, lore, level design,
l'animation.
Ça tape dans l'excellence à chaque fois. Ce n'est pas facile, mais pas insurmontable. Les challenges optionnels sont même bien costauds, vraiment à faire. Enfin, vous m'avez bien vendu le Spider-Man. En plus, c'est un univers assez kids-friendly. Je me vois bien y jouer avec mes gamins. Mm-hmm. J'ai filé la manette à mon fils qui a fait... c'était très drôle. Bon, après, il passe pas les combats, mais c'est vraiment pour se balader dans New York, c'est assez cool. PS, bravo à Jérémy Israël, hein, le pseudo de Jérémy Kletz sur les formes de Silence on Joue, d'être passé de l'autre côté, même si Monsieur Fall me manquera toujours. J'ai trouvé très bien dans cette première chronique, vivement la prochaine. Et oui, évidemment, je l'ai précisé, Jérémy ne fait pas du Monsieur Fall et va trouver son ton et l'a déjà trouvé, je trouve. Ouais. Et voilà. Enfin, deuxième commentaire et dernier pour cette émission, Alan San qui dit j'adore Dead Cells, mais Hollow Knight ne joue pas dans la même cour. Hein, mais bon, quand même. Bref, le premier est un très bon roguelite. Hollow Knight est sans doute dans le top 3 des meilleurs Metroidvania. Bref. Concernant Spider-Man, au bout de 2 heures de jeu, j'avais un sentiment très bizarre envers le jeu. D'un côté, j'étais ultra déçu par cet open world très Centro 3 et un système de combat trop pompé sur le Batman avec le concept d'utilisation de coups particuliers pour ouvrir la garde d'un ennemi. J'aurais préféré un gameplay à la Bayonetta ou à la God of War. Et de l'autre, ultra impressionné par l'ambiance ultra bien rendue et le déplacement qui est une vraie tuerie. Le jeu a mis pas mal d'heures à me conquérir, mais il y est arrivé grâce à un très bon scénario, surtout dans sa seconde partie, et aussi par les choix faits autour de la mythologie Spider-Man, notamment le fait de prendre un Peter Parker qui est Spider-Man depuis 8 ans et pas d'origine story. Enfin.
Ouais, c'est vrai que c'était la bonne idée, ça. Pas de repartir à zéro, la piqûre par un insecte,
les
etc.
Le reboot.
Ouais.
Allez, commençons avec le premier jeu de cette émission. On va parler de Tiny and Tall Gleipnir. Alors, je n'ai pas fait comme Olivier Bénis sur France Inter, qui, pour parler de Tiny and Tall Gleipnir, a fait venir Guillaume Meurice et Pablo Mira pour faire les doublages, hein, parce qu'il n'y a pas de doublage dans ce jeu, et c'était assez exceptionnel. Donc là, on s'est contenté de la bande-son. Donc, Tiny and Tall Gleipnir, jeu fait par un dessinateur français, Pins, c'est ça
Je ne sais pas si on dit Pins ou Pins, mais ils disent Pins à la radio, donc on va partir sur Pins.
Partons sur Pins. donc qui s'était déjà fait remarquer par des comic strips notamment postés sur Twitter, et il a fait de son univers un jeu vidéo, Tiny Untold Gleipnir. Corentin.
Oui, bah, c'est un one-man game encore, hein. C'est un jeu d'une personne sur un projet qui lui tenait à cœur. Donc là, on est devant un point and click à l'ancienne, basé sur une BD qu'il avait déjà sortie en l'occurrence, donc tu l'as dit, Gleipnir. Donc Tiny and Tall, ça raconte l'histoire de ces deux personnages, Tiny and Tall, qui sont des forgerons et qui ont forgé le Mjolnir, le marteau de Thor. Donc on comprend qu'on est dans une narration dans le monde des dieux nordiques, de la mythologie nordique et tout ça. Et il se trouve que les dieux du Nord ont un problème. Le Fenrir, le chien fou, enfin le fils même de Loki, je crois, commence à tout bouffer, quoi. Et il va bientôt bouffer le monde, ce qui est un problème. Donc il faut l'attacher. Le problème, c'est qu'il est capable de rompre tous les liens. Donc il va falloir créer le Gleipnir. Gleipnir, c'est ça, comme oui. ça qu'on dit. Le Gleipnir, qui est donc le lien qui va attacher Fenrir pour éviter qu'il bouffe tout le monde. Donc on va voir les personnages qui ont déjà fait le Mjolnir. Enfin, Thor, Odin.
C'est Thor.
Thor arrive, coucou les loulous, alors comme ça vous avez rien à faire, et ben je vais vous donner un boulot, il faudrait faire le lien pour attacher ce chien, très bien. Et ben c'est parti, on a Tiny qui est l'assistant de Thor, le forgeron en chef qui donne des ordres à Tiny sur un ton complètement condescendant, pendant que Tiny est tout petit, tout gentil, et qu'il est très naïf mais très courageux, et il y fait plaisir à voir. Moi j'aime beaucoup ce petit Tiny, on dirait moitié d'un homme, il est tout rond. Moi j'aime beaucoup cet homme. Donc on contrôle Tiny la plupart du temps, et donc on va résoudre des énigmes à la LucasArts classique. Ouais. Donc cliquer sur des éléments interactifs, utiliser son inventaire.
On est à la limite du pompage de, enfin on est sur de l'interface scum, hein, donc c'est,
ouais.
Voilà.
On est
on n'a
pas les verbes non plus, quoi, mais
on n'a pas les verbes. Ah oui, c'est vrai,
on n'a pas les verbes.
Ah, oui, il y avait les verbes, oh là là,
oui. On n'est pas là non plus. Mais non c'est très simple, c'est on clique vraiment, il y a pas 12 milliards, il y a pas d'action en fait. On clique, il va commenter l'objet, ou il va dire un truc, ou alors on utilise un objet dessus. C'est très très simple, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, ouais. en 2018, honnêtement. Il y a quand même quelques petites astuces de gameplay qui permettent de rendre le jeu un peu plus moderne. On peut penser notamment à la touche espace, qui est salvatrice, qui permet de mettre en lumière tous les éléments interactifs de la salle. Donc ça, c'est plutôt une excellente
chose.
C'est
très d'actualité, hein, ça.
C'est pas de la triche.
Je précise que tout point and click qui ne met pas un système d'illumination des objets cliquables est exclu d'office.
Exactement. Oh.
Le pixel hunting, c'est une tare.
En général, on en surabuse. Dès que tu arrives dans une pièce, t'appuies,
Ah oui, c'est pas encouragé.
Mais oui, devient tout à fait feignant.
T'as plus la recherche.
On évite les quelques scories de l'univers des années 90. Désolé, Patrick, mais le pixel hunting est refusé.
Le pixel hunting, c'est autre chose. Mais je trouve que les points d'interaction, c'est aussi fascinant de les rechercher dans le décor, de promener son curseur.
Alors, à la rigueur, si ton matériel de base est du LucasArts de base, ok, éventuellement on peut repérer les éléments qui sortent un peu du décor.
LucasArts de base, monsieur, un peu de respect.
Dans la tradition des LucasArts, c'était pas méchant. Mm-hmm. Mais je veux dire, oui, on peut designer ça pour faire ressortir des éléments. Là, comme c'est un peu un BD, tu vois, c'est un peu strip, c'est compliqué parce que tout se fond dans le décor, ouais, et donc c'est vraiment difficile de se dire, ah tiens, je peux cliquer là-dessus, je peux pas cliquer là-dessus.
Mais on nous donne pas d'indices qui nous permettent de réfléchir et de trouver la solution soi-même.
Au niveau de la recherche, mais qu'est-ce que tu veux faire à part des éléments graphiques, et de toute façon te le révéler d'une manière graphique, c'est un peu compliqué. Mais après, t'es pas obligé, encore une fois, tu peux faire ce que tu veux. Et attendez, parce que là, je vais vous faire hurler, alors, parce que c'est pas fini, le système d'aide. Parce qu'il y a Thor aussi, parce que Thor, il t'aide. Thor, il t'aide beaucoup. Donc, dès que t'es coincé, il te le dit comme ça, dès que t'es coincé, tu vas voir Thor, et Thor, il va, contre un sarcasme bien placé, te donner soit un indice, soit la solution. Et ça, c'est une très bonne chose d'avoir la solution.
Non, mais c'est exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que en fait, ça donne l'impression, arrivé un peu après le début du jeu, parce qu'en fait, au début, on est un peu fier, hein, et en fait, on se rend compte que ne pas avoir la solution, finalement, ne pas demander la solution à Thor, je trouve que c'est perdre quelque chose, parce que t'as finalement un dialogue qui est drôle, qui est bien mis en scène, et du coup, en fait, c'est un élément de sourire amené par le jeu au moment où parce que finalement. Enfin, je te redonne la parole après, mais en fait, chaque scène, il y a plusieurs petites énigmes, plusieurs petites combinaisons à la LucasArts, et il y en a toujours une qui est totalement capillotracté ouais. à la LucasArts.
C'est et donc, le poulipoulet, c'est toujours pareil. C'est ça. Je déteste ça.
C'est malin de jouer avec LED parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une page internet qui peut être ouverte à côté avec une solution. Et quelque part, c'est bien d'intégrer ça même dans le développement en disant bon, les mecs vont avoir une page de walkthrough à côté d'eux. Donc autant qu'ils soient dans le jeu et que ce soit in-game, qu'on ait ces aides.
C'est très intelligent.
Et ça, c'est très bien. Et moi, ça m'a rappelé Machinarium qu'il avait déjà fait à l'époque de manière excellente. Il fallait faire un petit shoot'em up pour débloquer une jolie petite bande dessinée qui racontait ce qu'il y avait à faire dans la salle. Voilà, donc voilà, il y a une réflexion. On sent que Pince, il a cherché à rendre son son point and click potable en 2018, enfin potable, consommable entre guillemets en 2018.
Gamer friendly.
Voilà, gamer friendly. On peut peut-être noter au passage, donc il y a tout un style graphique qui est, on est sur de la ligne assez claire. C'est un dessin assez simple, plutôt franco-belge, mais quand même avec beaucoup d'expression dans les visages, ça marche bien, ce qui sert justement la relation entre Tiny and Tall, la méchanceté de Tall gratuite sur Tiny, mais qui est aussi savoureuse. Je tiens à souligner l'écriture qui est, à mon sens, le plus gros point fort de ce Tiny and Tall. C'est vraiment, en fait, c'est pas un humour à punchline, c'est vraiment un humour sur des longues phrases, c'est des longs dialogues, c'est des logorées inutiles pour décrire des choses futiles, c'est vraiment formidable. J'aime beaucoup cette écriture.
Moi, ça m'a rappelé, toute proportion gardée évidemment, mais c'est un peu cet humour à la Kaamelott qui a bien fonctionné. C'est-à-dire c'est une sorte de subtilité de décalage par rapport à ce qu'il faut dire d'habitude, de petites envolées un peu inutiles et finalement ça crée une ambiance. Comme j'ai dit, alors il est pas doublé.
Ça
on imagine pourquoi, parce que c'est en termes de budget pour refaire multilangue, parce que évidemment.
Mais je comprends pas. On peut pas demander à Maurice et Guillaume.
Moi, je pense qu'on devrait lancer à l'insu de Pince un crowdfunding de doublage. Je pense que c'est une idée qui devrait faire son chemin.
Et question, est-ce qu'on retrouve un peu toutes ces références à la pop culture qu'on a dans la BD et dans les...
J'ai pas lu la BD. Alors, la BD est intégrée au jeu, par ailleurs. Donc, une fois qu'on a fini les différents chapitres, en fait, on débloque la BD et qu'on peut lire par la suite. Sauf qu'évidemment, toutes les énigmes ne sont pas dans la BD parce que c'est pas très intéressant à lire des énigmes. Donc, je peux pas faire le point de comparaison. Je trouve, en fait, moi, c'est pas le sentiment que j'ai eu. C'est que c'est pas un humour qui est dépendant d'un background culturel particulier, mais qui est vraiment qui est indépendant, qui peut vraiment se vivre comme ça. En tout cas, moi, j'ai rien vu de particulièrement référencé. Et quand même, j'ai passé un très bon moment. Il y a vraiment des répliques qui font mouche. Mais il y a quand même quelques défauts. C'est un jeu qui est un peu doigt-mer parce qu'il arrive à délivrer des choses bien. Puis il y a des moments où on fait ah, c'est un peu cheap, quoi. Et par exemple, notamment, si le dessin est plutôt joli, si le chara-design des personnages principaux, et c'est le plus important, est plutôt joli, tout ce qui est personnages à peu près réalistes, notamment les dieux, j'ai un peu de mal, j'avoue, avec ce style graphique-là, avec la gueule des dieux et de certains personnages à tête réaliste. Dès que ça bouge, on sent que Pince est un dessinateur de BD et pas un animateur, et ça se ressent. Je pense qu'il y a des progrès qui peuvent être faits sur l'animation. Il se trouve que c'est un épisode 1, dans cet épisode 1, on récupère quelques ingrédients d'une longue liste pour faire notre objet. Donc il y a d'autres épisodes qui vont arriver, on va récupérer les autres ingrédients, des ingrédients au demeurant complètement idiots, du style des tendons d'ours, le bruit de pas de chat, la salive des oiseaux, voilà, ce genre de choses. Donc d'autres épisodes vont arriver, et il y a quand même quelques bugs encore qui traînent, quand on est tout seul, on peut pas débugger tout seul. Donc, je vais faire vite, Erwan, t'en fais pas. Notamment, certains éléments qui n'apparaissent pas en surlignage quand on appuie et quand on te dit tous les éléments vont apparaître, du coup, tu cherches des plombes, un truc que tu étais. Voilà, c'est vrai. Mais je suis allé voir un petit peu ce qu'il a mis à jour sur Steam et il dit j'ai vu, je vais régler la situation. Certaines énigmes, ça, c'est un problème qui est complètement lié au point and click, le poulipoulet, certaines énigmes complètement capillotractées. Ah, puis dernière chose.
Mais ça, j'adore. Je trouve que ça fait partie de... Non, mais en fait, avec le système de solution, ça fait partie du gameplay, finalement, où chaque scène, grosso modo, il y a une grande énigme. Il faut sortir de la scène. Grosso modo, c'est ça le but. Il faut avancer dans l'histoire. Et finalement, c'est cette grande énigme de la scène est une succession de petites énigmes, de petites combinaisons à trouver. Ouais. Et donc, en fait, tu vas trouver les petites combinaisons et arriver à un moment, tu vas être coincé. Et là, tu te dis, le truc, je vais jamais y arriver. je vais jamais y arriver et tu vas chercher la solution parce que et ça te fait et c'est pas humiliant en fait.
Ah, c'est un peu humiliant mais c'est ça qui est drôle en fait.
Moi voilà et moi je sais qu'à un moment dans chaque scène et je sais bon voilà j'ai fini ce que je peux faire. Le truc final où il va falloir mélanger truc avec machin et mettre un truc improbable sur un truc je vais pas le trouver. Donc je vais cliquer sur la solution et j'avance. Mais je suis content, j'ai fait ce que j'avais à faire.
Et dernier point, il faut vraiment à mon sens corriger ça. Pince, si tu nous écoutes, double inventaire. Non, pas de double inventaire s'il te plaît, c'est horrible. À un moment donné, on joue les deux personnages, donc ils peuvent se déplacer de manière individuelle sur une carte. Le double inventaire n'apporte rien. Il faut juste passer des objets à l'autre parce que l'un a l'objet, il faut juste aller le donner. Donc à mon sens, alors soit j'ai raté une subtilité dans le gameplay ou alors je l'ai fait sans faire exprès, mais je trouve que ça a retiré. D'autres épisodes sont à venir, 15€, c'est sur PC.
Bravo. Et j'espère que ça arrivera ailleurs, ça le mérite. Tiny Antol, Gleipnir, premier épisode. Allez, on va parler d'un jeu qui a fait parler de lui là pour le coup, qui est sorti dans les courants de l'été, qui est un jeu réalisé par Deconstruct Team, dont on avait déjà parlé à l'occasion de Red String Club. C'est un jeu gratuit, téléchargeable et jouable directement aussi en HTML5 dans un navigateur. Ça s'appelle Behind Every Great One. Deconstruct Team, Behind Every Great One, c'est court. Hein, je dis ça pas pour dire que c'est un défaut, mais dire que pour c'est court et gratuit, vous devez y jouer, Camille.
Eh oui, Behind Every Great One, c'est-à-dire l'idée que derrière chaque homme se cache une femme. Eh oui, car pour que Monsieur réussisse à s'épanouir et vivre de juste pour son art, pour avoir la possibilité de créer son œuvre, il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui faire à manger, de laver la vaisselle, de repasser son linge, nettoyer la salle de bain, récurer les toilettes. Mais aussi accueillir les invités, dont une belle-mère inquisitrice, réconforter et regonfler l'ego de monsieur quand celui-ci doute, et tous les soirs accepter ou refuser les demandes assistantes de libido d'un mari un petit peu relou quand même, il faut l'admettre, et ne jamais le déranger au grand jamais quand il crée « La femme est une muse, jamais une artiste », rappelez-vous ce que disait Virginia Woolf. Donc, dans Behind Every Great One, on parle de charge mentale et plus largement de la place des femmes au sein du couple et dans notre société. Donc, petit rappel, la charge mentale, c'est le fait de penser à tout, à chaque instant et bien souvent de manière inconsciente au bon fonctionnement du foyer.
Charge mentale hein, qui est revenue un peu sur le devant de la scène pendant l'été 2017,
oui,
je crois, avec
Emma.
Une dessinatrice Emma qui a publié un comics sur Facebook, sur sa page Facebook sur la charge mentale et qui a très bien marché, qui a remis un peu le
terme. Et très pédagogique. Ouais, en plus, donc vraiment bien fait. Donc ça a un perfectionnisme domestique qui fatigue principalement les femmes, puisque c'est une pression qui se crée dès l'éducation, avec cette idée que dans notre société, les femmes sont plutôt faites pour servir, participer au bien-être des autres, et tout ça, et les hommes, plus dans l'accomplissement, l'action directe, la récompense.
Ingrat, enfin, dans le jeu, ça c'est ingrat, les remarques que prend l'héroïne,
mais oui, c'est,
alors, c'est dur. Hein, quand on...
Pas que dans le jeu.
Oui,
c'est une vérité.
C'est pas un gras que dans le jeu.
Et c'est vrai que c'est assez tranchant parfois en quelques lettres, en quelques mots.
Oui, puis c'est toujours suggéré, c'est genre, ça serait bien qu'on nettoie la baignoire. Traduction, je vais nettoyer la baignoire parce que c'est comme ça. Ouais. Ah, c'est une pression qu'on a depuis l'éducation.
Ça,
dans
les mots,
société.
Genre, tu travailles pas, il faut que tu t'occupes.
Tu travailles pas.
Comme ça,
faudrait que tu trouves une passion, je sais pas.
Occupe-toi.
Il y a rien qui t'active dans la vie. Qu'est-ce qui t'anime? Enfin, voyons. Mais... En fait, c'est que des reproches, des suggestions qui sont une accumulation de choses qui font que c'est pas facile.
Ouais, non, c'est clair.
Puis d'ailleurs, donc on joue une femme qui n'est du coup jamais récompensée, qui fait un travail invisible, mais...
En fait, la seule chose qui est visible, c'est ce qu'elle ne fait pas.
C'est ça, c'est exactement ça.
Grosso modo, ce qu'elle fait est totalement invisible, c'est ce qu'elle ne fait pas qu'elle se remarque, bizarrement. Hein, c'est-à-dire que si le repassage n'est pas fait, si le ménage n'est pas fait, si la vaisselle n'est pas faite, si la cuisine n'est pas faite, si...
On lui dit.
Ouais. Et en fait, on a un nombre d'actions limité, donc vous l'aurez compris, impossible de tenir une maison en vraiment parfait état, hein, puisque de toute façon, on ne peut pas tout faire en une seule journée.
Ouais, c'est pas un studio qu'ils ont.
C'est une grande maison. Mais bon, on remarque quand même que la maison est quand même plutôt bien tenue. Hein. C'est pas non plus le gros bordel. Hein. Donc du coup, elle est un peu seule. Vous cliquez sur toutes les tâches qui vous incombent. Et le soir, votre mari vous rappelle au dîner. Oh, bah tiens, t'as pas fait ça. Oh, mais ça serait bien. Et puis surtout, t'es quand même une privilégiée. Hein, t'as pas besoin de travailler. Donc profites-en. Toujours des remarques. Et inconsciemment, du coup, la femme va prendre toutes ces remarques pour elle et du coup va répondre à toutes les demandes, se donne une mission chaque jour. Et du coup, c'est un peu la prison dorée, mais voilà. Quoi.
Et c'est là, je trouve que le jeu fonctionne bien, c'est qu'il nous met la pression, en fait, quand on est clavier en main. On se dit, mince, la journée commence vite, il faut que je fasse au moins le minimum pour ne pas me faire allumer le soir avec une remarque un peu cinglante des beaux-parents.
Oui, parce qu'il y a les beaux-parents qui débarquent.
Qui débarquent à un moment.
C'est assez horrible.
Déjà, je trouve qu'il est racé, ce jeu, même visuellement. Je trouve qu'il il est stylé, il a quelque chose de... Alors, au début, il a ce côté un peu 3D isométrique, un peu vintage. Et je trouve que très vite, il y a ces effets visuels assez malins lorsque le malaise arrive.
T'as la maison qui change.
En fait, on est tout le temps dans un basculement, c'est jamais très fixe. On est un peu mal à l'aise même par le visuel, par la mise en scène.
C'est oppressant en fait.
Et on sent, notamment lorsqu'elle a, on va dire, des crises de panique. Ouais, on le voit visuellement, c'est traité visuellement. Il y a des changements de couleur, il y a des mouvements à l'écran qui sont assez malaisants même derrière le clavier.
C'est ça. Et à ce moment-là, il faut que tu trouves une pièce où il n'y a personne pour pleurer.
C'est assez. Non, mais vraiment, ça, je trouve que c'est une réussite.
C'est étouffant.
Et très vite, en jouant, on a un peu la sueur au front en disant vite, faut que j'aille vite parce qu'il y a ce timing, il y a ces impératifs qu'on nous colle et qu'on doit faire. Et je trouve que ça, c'est assez bien rendu.
Il se passe quoi d'ailleurs si on ne réussit pas, entre guillemets, nos tâches qu'on nous donne
C'est juste environnemental. C'est juste environnemental. C'est juste les remarques. C'est juste le déroulé.
Et en fait, c'est une partie sans rien faire, par exemple.
Non, parce qu'il faut faire un certain nombre de tâches pour que ça avance. En fait.
Ah oui, donc on nous force quand
la
même
journée passe comme ça en fait.
Puis t'as différents personnages qui entrent en scène.
Oui,
donc
tu as la belle-mère qui est particulièrement chiante, qui te dit est-ce que tu as fait des exercices pour ton physique, parce que quand même. Et puis est-ce que tu penses à faire des enfants? Et en fait, on lui demande jamais son avis, elle ne répond pas. C'est le mari qui répond, mais laisse-la tranquille, elle est pas prête. Non, en fait, c'est juste qu'elle veut pas d'enfants en fait. Enfin, c'est que des choses comme ça qui font que c'est de plus en plus lourd. Il y a de plus en plus de monde à la maison et elle arrive plus à se retrouver seule et à respirer.
Et on a l'impression que personne ne l'écoute, en fait.
Non, personne ne l'écoute, personne ne lui demande son avis.
Elle est là,
c'est trop facile pour elle, je veux dire, elle a la maison tranquille, elle ne fait rien, elle profite de l'argent de son mari. Voilà.
Et c'est en fait l'intérêt l'intérêt, il n'y en a pas qu'un, mais de Behind Every Great One, c'est aussi un jeu particulièrement subtil, c'est de tout mettre dans les sous-textes, dans la suggestion et d'une avec une limpidité claire, c'est-à-dire qu'il y a pas deux interprétations, on ressent vraiment et ce qui est d'autant plus c'est d'autant plus intéressant et quasiment impératif pour les hommes d'y jouer car on joue une femme et il y a quelque chose de l'ordre de l'immersion, de l'identification qui est particulièrement originale, qui est assez rare, surtout sur ces sujets-là, parce qu'on joue, on joue une femme au foyer. On peut se rappeler de Sunset où on jouait une femme de ménage, mais c'est pas du tout le même rapport.
C'est
on est quelque chose dans un enfermement, dans un enfermement, mais pas un enfermement que physique. On ressent l'enfermement mental.
Oui. Une tension aussi quotidienne.
On ressent dans cette façon, en fait, c'est pas qu'elle ne parle jamais, c'est qu'elle n'a jamais l'occasion.
Elle n'a pas d'espace,
Elle
n'a pas d'espace.
Et l'espace physique disponible est
de plus en plus réduit.
En fait, au début du jeu, on a trois activités à soi. C'est-à-dire trois activités non ménagères.
Fumer
qui est évidemment mal vu, vous pensez bien. Lire un livre et passer du temps sur l'ordinateur, sachant que les activités à soi, ce sont des activités pour la maison qu'on ne fait pas, parce qu'on a un nombre limité d'activités à faire. Mais on peut décider quand même d'aller à l'encontre. Mais petit à petit, la maison se referme, les activités à soi disparaissent. Et donc, du coup, voilà, on se retrouve enfermé dans un rôle. Et avec un final, c'est pas un jeu à spoil de toute façon, c'est un jeu de ressenti. Mais dans le final qui est une conversation au lit, eh ben on se rend compte de cet enfermement ultime qui est finalement que sa propre douleur, même sa propre douleur, passe après la douleur de l'homme.
C'est une question d'ego en fait. C'est des égos qui se...
Voilà, mais une question d'ego, pas, limite pas que de l'ego de l'homme, de l'ego de la femme aussi. C'est-à-dire une sorte de domination intrinsèque comme ça qui construit
et qui... Voilà. Aura du mal à changer, a priori.
Et là vraiment, je conseille aux hommes d'y jouer, parce que voilà, c'est en dire, notamment les conversations au lit le soir.
Parce qu'en plus, ça joue le rôle de coach pour essayer de lui dire, mais si, c'est très bien ce que tu fais, vas-y. Ouais. Et puis du coup, il fait, oh, bah ça va, c'est cool. Oh, et si on...
Alors qu'elle, elle est en dessous de tout, quoi.
Et si on faisait l'amour,
voilà. C'est ça. Et en plus, il insiste, hein, parce que tu peux dire non une première fois, puis après, il fait, oh, mais oui, mais non. Ouais, mais non, en fait.
Il y a un romantisme assez limite, hein, sur le... Les fins de soirée.
C'est ça.
Bref.
D'un côté, ça fait aussi du bien, parce qu'il y a un véritable enjeu, car dans le monde vidéoludique, qui est encore très sexiste quand même, les femmes sont bien souvent absentes ou représentées selon un prisme bien précis. Hein, et du coup, elles sont soit une forme de récompense ou hyper sexualisées. Et du coup, là, ça fait vraiment du bien aussi d'avoir un vrai jeu avec des vrais enjeux, du coup, pour le coup. Et de jouer une femme et de montrer un peu... Moi, ça m'a fait penser à... Je ne sais pas si vous avez joué à Daiki Strict. C'est un jeu HTML, c'est un jeu où il faut combattre le sexisme et l'homophobie dans la rue. Donc tu es une fille et tu arraches les publicités hyper sexualisées, tu transformes les tags, genre sur un mur il y a écrit pute, tu écris si je veux, et tu colles des affiches féministes et tout ça, et du coup c'était assez sympa.
La question c'est aussi l'intérêt du jeu vidéo, parce que ça aurait pu être un court-métrage.
Bien sûr.
On aurait pu imaginer un court-métrage sur la thématique, mais
là... c'est vraiment l'expérience, il faut vraiment se mettre à la place d'une
exactement,
femme.
Exactement, immersif, de jouer ses actions, de se ressentir de manque de liberté, on le ressent vraiment en jouant.
Parce qu'en fait, on peut parler de tous ces sujets longuement, si on ne l'a pas vécu un minimum, on a du mal à vraiment assimiler l'importance en fait, et l'enjeu. Quoi.
Alors dans ce genre, je parlais des hommes hein, qui peuvent là se mettre à la place des
après,
femmes.
Après, il y a aussi des hommes qui vivent ça, mais majoritairement, ce sont les femmes, puisque dans notre société, c'est comme ça.
Bien sûr. Je veux juste signaler, Quentin m'a fait le plaisir de binge hein, audio qui réalise l'émission. Et c'est vrai, il y a sur Binge un peu aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'une femme, donc c'est Victoire Tuaillon, qui fait un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table.
Très bon podcast,
journaliste, c'est une journaliste féministe, qui parle de la place des hommes dans la société, sur la masculinité. C'est un jeudi sur deux sur Binge Audio, et je ne saurais que le conseiller sur le dernier en date, hein, c'est sur l'orgasme masculin, sujet vaste. Donc effectivement, à voir sur le même sujet.
Et sinon, juste, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, de voir le film Mother de Darren Aronofsky, qui traite justement de la femme qui est là pour servir l'artiste. Enfin voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais...
Donc, à jouer, évidemment, Behind Every Great One. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin, donc notre tout nouveau chroniqueur jeu de plateau. Et donc, c'est un vrai plaisir. Il sera là toutes les semaines dans Silence on joue. Salut, Jérémy.
Salut, Erwan. On continue le rattrapage. Cette semaine, on va parler d'un jeu à rôle caché aux petits oignons. Son nom, A Fake Artist Goes to New York. Le jeu peut se jouer de 5 à 10 joueurs. Les joueurs jouent le rôle d'artistes talentueux, compétents, tout à fait légitimes. Par contre, parmi eux s'est glissé un imposteur, un mystificateur, un escroc. Le but du jeu sera de trouver qui est le menteur parmi les joueurs. Qui est le faussaire? Chaque joueur va recevoir une ardoise individuelle sur laquelle est écrit un mot. Et c'est le même mot pour tous. Tous, sauf un. Un des artistes n'a pas de mot écrit sur son ardoise. Il n'y a qu'une croix, une simple croix, à la place du mot. On place une feuille de papier au centre de la table. L'objectif des artistes, c'est de dénicher le faussaire. L'objectif du faussaire, c'est de trouver ce mot. Les joueurs vont ensuite collectivement dessiner le mot reçu. Chacun son tour, avec un petit trait, puis un autre petit trait, puis un petit rond. À chaque fois qu'on va lever le feutre du papier, on passera à son voisin. Et on va faire deux tours de table. Ensuite, on votera pour accuser l'un des joueurs d'être le faussaire. Je vais prendre un exemple, vous allez mieux comprendre. Imaginons que le mot choisi soit « voiture ». Tout le monde a reçu le mot « voiture » sur son ardoise, à l'exception d'une personne qui n'a trouvé qu'une croix. Cette personne, c'est le faussaire. et on commence le tour de table. Le premier joueur va, avec une grande assurance, dessiner un rond. Et là, tout le monde autour de la table est tout à fait rassuré. C'est une roue, forcément, c'est la première chose à laquelle on pense quand on doit dessiner une voiture. Le deuxième joueur prend son feutre et hésite. Oh, je ne peux pas dessiner une deuxième roue, un deuxième rond, ça serait trop évident. Le faussaire va tout de suite deviner. Deux roues, il faut que je fasse autre chose. Et donc, je démarque de la tangente du rond et je continue pour dessiner le châssis de la voiture. Et là, tous ceux qui connaissaient le mot autour de la table se disent « Oui, ah bah lui aussi, il a l'air de savoir quel est ce mot. Il a l'air légitime, lui aussi. » Et chacun, à son tour, s'efforcera de ne pas être trop précis, trop détaillé, pour que le faussaire ne devine pas le mot. Mais d'un autre côté, il faudra se blanchir face à cette assemblée de juges. C'est très fin, c'est très rigolo, c'est intelligent. On se marre. On n'a pas du tout besoin de savoir dessiner, mais alors pas du tout. La boîte est minuscule, elle rentre dans la poche. Alors c'est très simple, elle fait 11 cm de longueur, 6,5 cm de largeur et environ 4 cm d'épaisseur. Elle rentre dans la poche ou dans la boîte à gants pour avoir toujours le jeu sur vous. Elle est pleine à craquer. Il y a une dizaine de feutres de couleurs différentes, des ardoises individuelles, un marqueur pour tableau blanc. Tout est inclus et ça va vous prendre 3 minutes pour expliquer les règles. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent se jouer jusqu'à 10 joueurs pour des parties de moins de 20 minutes. Ça marche pour les enfants, il suffit de savoir lire les mots qui sont très simples. C'est édité par One Game. Et vous avez compris, je vous le recommande très chaleureusement. Je rappelle le nom du jeu, A Fake Artist Goes to New York. L'auteur, Jun Sasaki, s'est édité chez One Games. C'est un jeu qu'on peut dégainer en fin de soirée et on devient une star. Et moi, je vous dis à bientôt pour jouer à des jeux qui ne rendent pas violents, qui abrutissent pas et qui ne donnent lieu à aucun rapport accablant sur les dangers qu'ils représentent. Bye bye.
Bye bye, Jérémy. C'était bien, hein.
Et, bien, ouais, et le jeu me rappelle Petit Meurtre et Fait Divers, qui est un peu sur ce même principe, avec une personne qui n'a pas la même liste de mots et qui se fait interroger par un inspecteur. C'est un peu le même genre, mais sur le dessin, ça a l'air chouette. Moi, ça me donne envie d'y jouer.
Ah, c'est clair.
C'est clair. Variation collective de Pichonari sur. Enfin, non, c'est bien. C'est bien. Et ben, c'est le moment. Hein, c'est le moment. Après Spider-Man, chaque rentrée, on a quelques triple A incontournables, quelques blockbusters dont nous devons parler. Et cette semaine, c'est évidemment le retour de Lara Croft avec Shadow of the Tomb Raider.
Mais en prenant la clé, vous avez déclenché l'apocalypse. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire le monde.
Je ne les laisserai pas faire ça.
Non, ne laisse pas faire ça, Lara. Sauve le monde.
Attends, on sent qu'elle souffre quand même dans l'extrait qu'on a eu là.
Ouais.
C'est toujours physique. Hein, les derniers Tomb Raider, là, ils sont assez.
Et on sent la puissance du scénario.
On sent la puissance des flammes.
On la sent là.
Elle recharge mentale plutôt. Elle est pour tirer sur les gens. Tu vois.
Elle recharge mentale. Oh, c'est bon ça. C'est très très bien. Rise of the Tomb Raider, ça c'était 2015. Tomb Raider, le reboot, c'était 2013.
En 2018.
Le reboot, quel jeu hein. Donc oui, en 2013, on a retrouvé Lara Croft, qu'on avait un peu perdu. Enfin voilà, il y avait eu ces jeux un peu acceptables, hein. Underworld, Legend, Anniversary, qui était passable, qui était un peu plat, mais bon, soit.
Mais reboot en 2013.
Mais bon, le vrai problème, c'était ceux d'avant qui étaient tellement.
C'est ça,
pas
on sortait de Angel of Darkness, rappelez-vous. Donc voilà, on était content finalement avec ce Crystal Dynamics. Et puis voilà, 2013, Tomb Raider qui revient avec en pleine forme. Et voilà, Rise. Et maintenant.
Un jeu méchant, hargneux en 2013. C'était un jeu, un survival qui était vraiment violent. On en a souvent parlé ici. Enfin, moi, c'est un de mes jeux vraiment fétiche, le 2013, j'avais beaucoup aimé.
Yes. Allez, ce Shadow of the Tomb Raider, Patrick.
Ah bah écoute, alors, je crois qu'on en a parlé il y a quelques semaines ensemble, on parlait un peu des jeux de 2018 qu'on attendait ou pas. Moi, je vous avais dit, j'attends rien du tout du Tomb Raider parce que on avait été quand même bien refroidi par Rise of the Tomb Raider, donc la suite de le deuxième opus de cette trilogie que j'avais trouvé fade et vraiment pas au niveau du fameux reboot de 2013 qui était nerveux. Bah écoutez, moi c'est une bonne surprise Shadow. Moi vraiment une bonne surprise, je vous dis, mais je l'ai vraiment abordé un peu reculant en me disant bon. Qu'est-ce qu'ils vont faire après Rise of the Tomb Raider qui était quand même. J'en ai pas des grands souvenirs. Vraiment. Alors que le 2013, je l'ai refait plusieurs fois, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Bah écoutez, bonne surprise. Bah, je trouve que c'était un peu le message hein, des développeurs, dire on revient aux basics. Alors ça fait un peu cliché de dire ça, mais quand on est manette en main, bah, franchement, c'est vraiment ça dans ce Shadow. Je trouve qu'on revient vraiment à la formule initiale des Tomb Raider. C'est qu'on se retrouve, on revient sur quelque chose de plus sombre. On retrouve, surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on retrouve les grands environnements amples. Et on retrouve les temples, les tombeaux, avec les énigmes, avec bah, tout ce qu'on aimait dans les premiers Tomb Raider. C'est-à-dire ces moments de... avec toujours des mécaniques de jeu, des indices à retrouver, des choses comme ça. Et je trouve qu'on a... Moi, j'ai retrouvé cet effet wow en arrivant dans certains endroits où j'ai pris quelques minutes à regarder ne serait-ce que l'architecture des lieux. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas eu ça dans un Tomb Raider. Et là, je trouve qu'on retrouve ça. C'est un jeu qui est magnifique. Enfin, c'est ouais. vrai que... moi, je trouve que les bandes-annonces qu'on avait vues ne donnaient pas forcément envie de s'y mettre. Et quand on est manette en main, je trouve qu'il est magnifique. On retrouve vraiment l'exotisme. L'exotisme qui, pour moi, est vraiment relié aux deux premiers Tomb Raider qui pour moi sont vraiment les épisodes canoniques qui m'avaient vraiment marqué à l'époque. Et je trouve qu'on retrouve cette formule d'exploration, ce mélange d'action évidemment. Les combats aujourd'hui ils sont classiques, hein, il n'y a pas de grand changement par rapport au précédent, mais ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'on avait dans les premiers Tomb Raider, où on les subissait les combats dans les premiers Tomb Raider. Là je trouve que ça marche plutôt bien. Je trouve qu'on a vraiment une expérience fluide. Et puis moi je trouve qu'il y a ces moments... grosso modo, hein, le scénario, donc on est sur, comment dire, sur une malédiction, les malédictions ancestrales en Amérique du Sud, fin du monde, enclenchée notamment par Lara Croft elle-même, les fautives d'action qui vont amener au pire pour le monde.
C'est la grande dépression de Lara Croft.
Ça se passe pas très bien pour elle, on sent qu'elle vacille sur ses acquis et sur ce qu'elle est. Il y a quelques petits moments de flashback aussi qui nous ramènent sur son passé dans le jeu. Moi, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est ces moments, il y a des vraies fulgurances de sombre dans le jeu, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment le côté inquiétant des premiers Tomb Raider avec des moments gore, des moments vraiment angoissants dans des environnements vraiment flippants, mais vraiment où il y a des passages de assez angoissants. Et je trouve que au niveau des ambiances, il y a une vraie réussite sur celui-ci qu'on n'avait pas du tout dans le Rise. Et au final, je me dis, quand on voit cette trilogie entre le 2013, le Rise et celui-ci, finalement, c'était Rise le point faible. C'était vraiment l'épisode, pour moi, qui était de trop. Et là, je trouve qu'on renoue vraiment avec ce qui est pour moi un Tomb Raider, avec une expérience vraiment, pour moi, fluide, qui enchaîne combat, exploration, énigme. Et je vois qu'Erwan fait des grandes grimaces. Je pense qu'il ne va pas tarder à réagir. En tout cas, moi, très bonne surprise. Et puis, il y a ces moments de... C'est tout bête, mais les lieux immergés, où on est dans des séquences de nage assez angoissantes, où il faut vraiment gérer son oxygène. On croise des bêtes pas forcément très sympathiques sous l'eau. Et voilà, on retrouve vraiment ces moments d'exploration, moi, qui me manquait et qui, pour moi, c'est ça Tomb Raider. Et moi, je suis ravi de retrouver ça. Alors, je ne l'ai pas encore fini. Hein, je sais pas, peut-être 7-8 heures de jeu. Et vraiment, je m'amuse avec. Je trouve qu'il est vraiment très, très agréable à parcourir.
Camille
Alors, moi, c'est assez mitigé. Je trouve que on retrouve encore... Bon, changement de décor, on se retrouve au Pérou, dans la jungle, mais on a quand même... toujours les mêmes actions, les mêmes schémas que les deux précédents avec le piolet. On s'accroche, on escalade, la corniche se casse, on lance le grappin, on fait rouler un chariot, on déclenche un mécanisme, on a une bonne séance de gunfight, un moment enchaînement de catastrophe, un avion qui s'écrase, des QTE. Bon. On a une partie aussi un peu crafting, RPG, avec un arbre de compétences, discuter avec les villageois, plusieurs quêtes, mais c'est quand même un triple A 2018 comme on peut en faire à l'appel, quoi. Donc du coup, c'est assez ennuyeux de ce côté-là. Cependant, comme Patrick, je suis d'accord. Je trouve qu'on retrouve une atmosphère un peu plus lugubre, un peu plus inquiétante, sombre, ouais. Gore aussi, parce que je veux pas spoiler, mais à un moment, on est dans un temple et il y a des crânes et du sang et des créatures.
Même l'éclairage est fabuleux.
Peur. L'éclairage, il y a vraiment un travail avec le feu.
J'ai même fait des captures d'écran, tellement je me disais, c'est magnifique.
Il y a un travail aussi avec le feu, donc du coup, avec la lumière, tout ça. Il y a quand même ce truc-là, mais je trouve qu'on n'a pas encore, On retrouve pas l'expérience des premiers Tomb Raider où t'étais vraiment seul et solitude, que tu savais rien du tout, parce que là tout est en surbrillance, hein, et machinalement t'appuies pour voir où il faut actionner les trucs.
Ça, par contre, on n'arrête pas de le faire en fait, le R3 devenu, là, et ça devient même systématique.
On est devenu un peu feignant et on réfléchit plus trop. On arrive dans une pièce, tac, hop, qu'est-ce qui se passe, okay. Et du coup, alors dans les premiers Tomb Raider, on était vraiment seul et il y avait 0 indice, et des fois, enfin moi je me à l'époque il y avait pas forcément internet, et je me rappelle passer genre un mois dans un niveau parce que je galérais, mais en même temps j'adorais ça quoi.
C'était pas toujours très agréable, hein, parce que des fois du level design très moyen, mais tu disais ah il fallait faire ça,
et
d'accord,
en plus des fois il fallait juste sauter à tel endroit à tel moment et tout, et du coup c'était c'est vrai que c'était un peu relou. Donc du coup voilà, puis après on entend souvent que Tomb Raider c'est Uncharted, enfin bon, ok, mais bon là on peut se passer de l'humour un peu beauf de Nathan Drake, donc on va pas bouder le plaisir. Et en plus finalement c'est une modernisation assez logique des premiers Tomb Raider, si on regarde bien toutes les actions qu'elle fait, c'est ce qu'on fait déjà dans le dans les
souple,
premiers quoi.
C'est quand même très souple par rapport aux premiers,
souple,
forcément,
heureusement.
Qui sont d'une raideur absolue, mais
heureusement
l'expérience est très souple.
Non, c'est pas grave.
C'était une blague.
J'ai un bémol, par contre, c'est vraiment sur le côté infiltration qui est vraiment cheap. Le côté infiltration qu'on utilise quand même pas mal dans le jeu.
Mais on sent qu'ils ont fait ça pour coller avec le paysage vidéoludique.
Et je suis pas
actuel,
sûr que c'est ce qu'il faille faire dans
et
un Tomb Raider.
Et pour coller à la mode des murs végétaux.
Mais oui.
Ouais, voilà.
Il fallait coller à la mode des murs végétaux.
Et ça, c'est un peu en trop.
Et je pense que Tomb Raider n'a pas besoin de tout ça.
Non, on est d'accord. Ça, l'infiltration.
Je veux dire, le personnage de Lara Croft est quand même très charismatique, et il y a beaucoup de choses à faire, et on aurait préféré qu'il travaille encore plus le personnage et avec un scénario un peu plus parce que là, les méchants et à cause d'eux, bah, elle a pas eu sa famille et tout ça,
rapport au père toujours
mais c'est un peu longuet au bout de 3 épisodes moi je trouve, et puis le moment où on l'incarne petite, je me suis dit ah bah ouais Nathan Drake a eu le droit à son moment gamin, donc là j'ai trouvé ça un peu trop
Pourtant l'infiltration c'est quelque chose que j'aurais assez volontiers donné à Lara Croft, qui se retrouve quand même face à des armes.
Ah non, mais elle est invincible, elle est là en train de se construire, elle devient Lara Croft, mais en fait elle est déjà invincible de base. Quoi. Et du coup, des fois, c'est gros.
Parce que
hélicoptères et tout.
C'est là la différence entre les trois. Il faut l'axe du scénario, c'est le premier Lara Croft de 2013. C'est finalement comment une jeune fille devient Lara Croft. Le deuxième Lara Croft, c'est comment Lara Croft devient Lara Croft. Et donc cet épisode, c'est comment
Lara Croft devient Lara Croft qui devient Lara Croft.
C'est ça le truc.
Excellent.
Voilà.
Juste pour dire, c'est à la rigueur, l'infiltration, je trouve qu'elle a plutôt sa place dans une série comme Tomb Raider. Simplement, il faut peut-être la faire comme The Last of Us, c'est pas comme un.
Moi, les premiers Tomb Raider, finalement, il n'y avait pas beaucoup d'humains. C'était plutôt des créatures, parce que c'était dans des endroits oubliés, tout ça. Bon, là, pour que ça colle avec le scénario, forcément, il faut qu'il y ait des mecs, tout ça. Mais du coup, ça perd un peu du mystère. Par contre, on retrouve le côté mystique. Et je trouve dans cet épisode-là, est fabuleux. Je ne spoil pas, mais.
Il y a une vraie ambiance. En fait.
Mais
il y
a quand même quelque chose. Il y a une atmosphère qui est plus travaillée. On étouffe, comme tu disais, dans l'eau. On se retrouve coincé. Et là, j'ai vraiment fait.
Il y a toujours les caveaux trésors, là, avec
les tombeaux.
Les tombeaux.
Il y a quelques tombeaux secrets qui permettent de relever un petit peu le défi, un petit peu plus pimenté, mais pas encore assez, à mon goût.
Bon, Erwan, la parole est au procureur.
Je sens que la sentence va tomber.
À un moment, j'ai été obligé de faire un listing tellement. Je comprends pas. Non, genre, en fait, je suis très très fâché contre ce Lara Croft, contre les gens qui l'ont fait. Déjà, vous l'avez juste évoqué, mais c'est un énorme problème. Alors, le jeu est pas laid, soit. Sauf que, touche R3, quoi. Touche R3.
Ça, je suis d'accord.
R3. En fait, ils font un jeu avec des graphismes et en fait, ils t'obligent à appuyer constamment sur une touche qui va rendre lumineux tous les objets avec lesquels tu vas interagir et tous les formidables petites boîtes qui se trouvent là. Je ne sais pas pourquoi il y a ces saloperies de boîtes.
C'est marrant, on en parlait tout à l'heure sur le point and click.
À quel moment il y a quelqu'un au sein de l'équipe de Tomb Raider qui s'est dit Tomb Raider est un jeu de loot et de craft.
Et ouais.
Parce qu'ils ont mal lu. Ils ont lu Lara Croft. Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
C'est la seule explication.
Non, mais moi,
pourquoi
le craft me pose pas de problème.
À quel moment ils ont dit c'est ça le cœur du jeu? Parce que c'est ça qui se passe. Quand on joue, on arrive à un endroit. Alors oui, c'est magnifique. On a des grandes vues qui sont un tout petit peu appuyées par Lara Croft dit « Oh, que c'est magnifique !» Mais parce qu'il faut bien dire que c'est...
Il y a toujours un moment cinématique où elle s'arrête et on voit... Et
c'est pareil, c'est l'ADN de la série aussi.
Qui rentre dans une case à cocher fiché d'un putain de cahier des charges. C'est ça qu'on
ça,
voit.
Tu le sais,
c'est le problème de ce Tomb Raider, c'est qu'à du début, pas à la fin, parce que j'y suis pas arrivé et je n'y arriverai sans doute jamais, on a juste l'impression de se sentir Neo dans Matrix quand il voit quand il ne voit plus le monde, mais il voit les trucs dégoulinants la en verre de la matrice. C'est-à-dire qu'on ne voit plus Shadow of the Tomb Raider, on voit le cahier des charges, on voit tous les éléments comme ça qui sont mis et qu'on doit qui sont mis tous aux chausse-pieds, c'est-à-dire que finalement, on a l'impression, pourquoi vous la laissez pas avec son arc, son couteau et les paysages, et on a envie de ça, et vous savez comment rendre ou regarder comment ils font chez Uncharted, je sais pas, mais pour rendre un level design évident sans qu'il y a des choses à s'illuminer, Uncharted ouais. Ils savent le faire, regardez comment ils font Uncharted, ils mettent des lumières par exemple pour savoir où on va, ils sont pas obligés de toucher R3 pour que les trucs se s'allument, et mettez pas autant de choses. Il y a des buis. On passe sa vie à récolter des buissons et à casser des arbustes et à récolter des coffres qui n'ont rien à faire là parce que au milieu de la jungle, on est nulle part. On vient de se faire attaquer par deux putains de guépards qui ont rien à foutre là. Jaguar, pardon. Et il y a des
beaux spécimens d'ailleurs.
Hein, la scène avec le jaguar est quand même saisissante.
L'alien d'ailleurs, il y a une scène.
Ouais, sauf que des fois, on n'a pas envie aussi de buter autant d'espèces protégées. Mais c'est un autre problème.
Enfin, ça, c'est Tomb Raider. Hein, Tomb Raider, elle n'est pas là pour les déperdre.
J'avais du mal à cliquer pour les... Mais bon, ouais, on est un peu mal à l'aise, mais bon, ça fait partie de...
C'est R3, incompréhensible. Oui. Je ne comprends pas comment on peut flinguer l'ADN d'une série avec du gameplay mal pensé, en fait. Le gameplay, dans le sens où ça met l'ensemble, c'est pas juste de level design, c'est pas juste la façon de bouger, c'est qu'est-ce que tu proposes comme expérience de jeu. L'expérience de jeu de Shadow of the Tomb Raider, c'est R3. Voilà. C'est tu rentres dans une pièce, tu fais... C'est, d'ailleurs, la pièce, elle est jolie, elle est hyper bien designée, ou... Bon, hyper bien, après, ça dépend des goûts, mais ouais, why not. Eh ben, tu appuies sur R3 parce que y a un vase.
Ouais, parce qu'un mode... un mode sans R3, en fait, dans le jeu. Je sais pas s'il y a un mode
et après,
difficulté
sans R3. Il y a tellement d'indicateurs entre tes arbres de compétences, le machin de tes armes qu'il faut améliorer, tes tenues, tu as un indicateur du pourcentage de lecture des tableaux. Non mais sérieusement, c'est-à-dire que au-delà de tes
pour apprendre la langue et aller plus loin.
Mais qu'est-ce qu'on en a besoin? Non mais parce que ça fait trop de trucs. À chaque fois, t'as juste l'impression que ils avaient un super dessert, tu vois. Ils avaient un super dessert, un truc que t'avais envie de manger. Et puis ils se disent ils ont envie de manger, mais on va leur rajouter la crème chantilly, ok? Et là, bon, t'as encore envie de le manger parce que t'aimes bien la crème chantilly. Et puis mais on va encore rajouter une cerise. Et puis on va encore rajouter des petits machins de toutes les couleurs. Et puis on va vous mettre un dégueulis de coulis de framboise dessus. Et finalement, ça devient mais tellement indigeste, je comprends. Après, voilà, et franchement, j'ai tenu avec l'illusion que c'était un bon jeu pendant 2 heures. Où je me suis dit ouais c'est cool, je suis content de la retrouver et tout ça, parce que j'étais encore avec cette impression de Tomb Raider 2013 que j'avais adoré, que j'avais plié, que j'étais tellement content de retrouver Lara Croft qui comme vous l'avez dit quoi, le Lara Croft de 95, il est tellement important dans mon histoire de joueur, dans l'histoire des jeux vidéo que voilà, ça reste quelque chose qui est incontournable, mais voilà, j'avais envie de jouer Lara et à un moment, je sais pas quand c'est arrivé, le scénario aussi. Le scénario qui n'existait pas dans le premier, soit. Mais en fait, il n'y avait pas besoin d'un scénario, il y avait besoin d'une intention. Mmh. Et l'intention, c'était quelque chose d'initiatique, c'est-à-dire qu'on débarquait sur l'île, on savait pas où on débarquait, on était dans la pure exploration. Et du coup, on n'avait pas besoin de scénario, on avait besoin de sortir de l'île, on avait besoin de découvrir.
Là, du coup, le scénario est assez lourd. Parce qu'il y a une double lecture où elle répète tout le temps c'est à nous de construire notre destinée. C'est en lien avec le scénario de base et c'est en lien avec la création de Lara Croft.
Non mais sérieux, j'ai failli me pendre.
Et en fait, c'était chiant. Et il y a beaucoup d'échanges comme ça, un peu en plus avec son ami.
Avec son pote, là, oui.
Avec son pote, où la mort est sur sa tête tout le long.
Jonas.
Et en fait, c'est très. Non mais attends, laissez-le partir et je vous donne l'artefact. Et puis, enfin, c'est que des choses qu'on a vues, on a vomi, on a avalé. Désolé. Et en fait, du coup, c'est un peu dommage sur ce côté-là.
Il y a beaucoup.
Mais on commence à enfin sentir Lara Croft quand même à certains moments.
Oui,
la vraie.
En fait, alors moi je sais pas vous, mais il y a quand même un truc, c'est que dès que t'es obligé de passer de ton arc à ta Kalachnikov ou l'équivalent, c'est une punition.
Oui.
C'est une punition. Enfin, je sais, vous êtes d'accord quand même là-dessus.
Sur les gunfights, etc.
Les gunfights, c'est une punition. Ils mettent, ils laissent dans le jeu des punitions. C'est enlevez-les. Enlever R3, enlever le craft,
c'est enlever moi, le craft m'a pas dérangé parce que maintenant ça intéresse beaucoup
limite,
de jeux.
Non mais le craft ne me dérange pas
ça,
si
tu vois, c'est pas un truc.
Si tu trouves des petits trucs ou si c'est des récompenses.
Après il y a des artefacts que tu trouves que je trouve cool où t'as une petite explication, tu es en 3D, tu retournes et tout ça c'est joli. Après moi ce qui m'emmerde c'est dans les villages où il faut discuter avec les gens et c'est mal fait je trouve et les petites quêtes un peu chiantes.
Tu te sauves avant que le mec te parle.
C'est ça tous ces trucs se rajoutent.
C'est un peu un patchwork de qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un triple A en 2018, en fait.
Et
c'est ça qui est un peu dommage.
On perd, y a, je pense qu'il y a les moyens techniques, tout ce qu'il y a dans ce Shadow of the Tomb Raider, et ben en fait, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose, il y a besoin d'enlever. J'ai l'impression d'être jury de Top Chef. Tu vois, c'est genre quand t'as une recette et t'as trop de trucs et que tu arrives, il faut revenir... Il faut revenir aux ingrédients, il faut revenir à...
Il faut raconter une histoire.
Voilà, non mais il faut un truc où tu sens les légumes, quoi. Là, il y a trop de sauce, je suis désolé, quoi. C'est ça, moi, je sais pas.
Après, on est déjà au troisième épisode de cette trilogie
qui
de
se
reboot.
Termine,
mais je vois un peu Lara Croft, mais je vois pas encore la vraie Lara Croft au sang froid, qui a peur de rien.
Je crois qu'au 4 racontera comment Lara Croft est devenue
Lara Croft, c'est ça.
C'est ça.
D'accord.
Attends le 4.
Ok.
Shadow of the Tomb Raider sur PC, PS4, Xbox. Et c'est tout. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Allez, on va finir l'émission avec un remake, enfin pas un remake, une ressortie, HD de ces jeux cultes de fin 99 et fin 2000 en France pour le premier, fin 2001 pour le deuxième. C'est bien sûr Shenmue 1 et 2 HD. Allez, Patrick, je te laisse la parole.
Ouais, on va faire simple. Shenmue 1 et 2, ce sont des dates pour moi dans le jeu vidéo. Ce sont vraiment des jeux fondateurs. On rappelle rapidement donc Yu Suzuki de Sega qui avait ce projet pharaonique d'un jeu d'aventure en monde ouvert avec énormément de nouveautés pour l'époque, des séquences de QTE. Donc encore une fois, un monde ouvert où on peut explorer, on peut enquêter de façon assez libre. Avec un cycle jour-nuit qui se déroule. Enfin, c'était un jeu assez hallucinant en termes d'ambition, qui a coûté très cher. C'était un record à l'époque. Ça a d'ailleurs coûté très cher à Sega après. Parce que
ça a coûté très cher à la Dreamcast.
À la Dreamcast et à Sega parce que ça n'a pas fonctionné commercialement parlant. Mais encore une fois, c'est un jeu qui aujourd'hui reste une vraie pierre angulaire dans l'histoire du jeu vidéo, qui a marqué énormément, qui était difficile d'accès. Hein, c'est-à-dire qu'à part retrouver une version Dreamcast d'époque sur des machines qui ne sont pas forcément très très fiables sur la longueur, entre leurs lentilles, etc., c'était pas des jeux faciles à rejouer aujourd'hui. Et puis là, Sega a eu l'idée de les rééditer le 1 et le 2 réunis en version physique et des maths sur PS4, Xbox One. Alors déjà, j'ai envie de dire, les rendre disponibles comme ça en deux clics, c'est déjà une très bonne chose de pouvoir se replonger dans ces jeux vraiment mythiques. Parmi les bonnes choses aussi, c'est la fête de pouvoir jouer en version japonaise dans les voix, parce que dans la version Dreamcast d'époque, on avait la version anglaise qui ne m'avait pas forcément choqué à l'époque, parce que c'est ce qu'on avait. Et c'est vrai, quand on joue là, on se replonge dans les jeux avec les intonations japonaises, on se rend compte qu'il y a une vraie différence dans le jeu des acteurs, etc. Donc c'est un vrai plus. Et puis se replonger dans Shenmue 1 et 2 aujourd'hui, c'est se rendre compte. Encore une fois, que c'est une vraie date, que ce sont des jeux qui n'ont rien perdu de leur souffle. Il y a un vrai souffle épique dans Shenmue. Il se passe quelque chose à l'écran. On incarne cet ado au Japon qui voit son père se faire trucider devant lui et qui va se lancer dans une quête de vengeance pour retrouver le meurtrier de son père et qui va peut-être pouvoir se perdre dans une folle collection de goodies à débloquer dans des distributeurs ou qui va perdre son temps dans les salles d'arcade à jouer à Outrun Gone ou Hang On. C'est ça, Shenmue. C'était, c'était déjà à l'époque, donc tu disais en 99, 2000.
Ouais. 99 au Japon, le premier Shenmue.
C'était déjà une liberté, c'était quelque chose de complètement nouveau, de se déplacer comme ça dans un monde. On avait une sensation grisante de voir des personnages se déplacer dans une ville avec, encore une fois, le cycle jour-nuit, des gens qui se baladent et qui ont leur timing, etc. Et c'est, pour moi, c'était un jeu aussi sur... mais moi, c'est un jeu qui m'avait marqué à l'époque parce que c'était, pour moi, un vrai jeu quasiment existentialiste qui apportait cette pesanteur du temps, ce poids du temps, ce poids de la responsabilité sur ce jeune type qui se retrouve avec comme ça une nécessité de venger son père, qui se retrouvait un peu perdu parce que il faut y aller, il faut se venger, mais ça se fait pas comme ça. Il faut enquêter, il faut rencontrer plein de personnages. Il y a tout un rite initiatique dans Shenmue. C'est un personnage qui se découvre et qu'en même temps qui est assez mutique. Enfin, voilà, c'est un jeu fascinant et qui reste, qui n'a rien perdu, je trouve, aujourd'hui de se cacher. Alors après, voilà, remasterisation.
J'attends
tu
le
disais.
Après.
moi j'ai envie de dire que, voilà, justement, ce sont tellement des dates ces deux jeux qu'ils méritaient mieux finalement. Là, on retrouve donc les jeux d'époque quasiment retouchés, c'est-à-dire que. Alors, moi, je suis pour replonger dans les jeux de l'époque, se remettre vraiment dans l'ambiance de 99 sur une Dreamcast. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, ça jure sur un jeu, encore une fois, qui était pionnier, qui était visionnaire. Aujourd'hui, ce qu'on note tout de suite à l'écran, ce sont des textures dégueulasses, il faut le dire. On a vraiment des textures très pauvres. Et notamment, sur un jeu, on est beaucoup sur du discours. Donc, on se retrouve très souvent derrière les épaules du perso. On se retrouve avec des pixels, des textures complètement moches. Et pour moi, s'il y avait un jeu qui méritait un remaster, d'être retouché, comme on le fait au cinéma régulièrement, de retoucher une image, de nettoyer, c'était Shenmue. Il méritait aussi peut-être qu'on retouche un petit peu, qu'on lui redonne quelque chose en termes de visuel.
Corentin,
je te trouve dur, parce que je trouve qu'il ne jure pas du tout avec le 3, pour le coup, de ce qu'on en a vu.
C'est cohérent, finalement.
On verra plus tard le 3.
Je te trouve un peu dur, là.
Et ça, moi, ce qui m'a aussi frappé en jouant, encore une fois, en dehors du plaisir de surplonger, c'est le passage, par exemple, lors des cinématiques, aux 4 tiers, c'est qu'on est sur du 7-9, hop, on repasse en 4 tiers sur les cinématiques. Ah, oui. C'est un détail, vous me direz, c'est un petit détail. Mais non, moi, ça me sort, j'ai l'impression que d'entendre un lecteur CD qui lit une cinématique, ça me sort du côté justement temps réel qui était fascinant de Shenmue. Bon, voilà. Et malgré tout, c'est un plaisir de s'y replonger. Alors attention, la personne qui vous parle, c'est quelqu'un qui l'a fait en 99, qui s'était vraiment beaucoup plongé dedans. Moi, j'étais tombé amoureux de cette ambiance, de cet univers. Je pense que s'y mettre aujourd'hui, il faut vraiment s'y mettre avec un œil quasi,
d'historien.
Voilà, exactement, d'historien. Se dire, attention, c'est un jeu qui est très daté techniquement aujourd'hui, qui a une vraie importance, c'est-à-dire qu'il mérite le coup de s'y plonger. Mais attention, il a vieilli visuellement, il a vieilli dans ses mécaniques, il a vieilli dans son gameplay. Moi, même là, je jurais parfois que ma manette, parce que le perso est un peu un tank, voilà, il faut connaître. Je pense qu'on profite vraiment de ce jeu quand on sait ce qu'il y a derrière, on sait la thématique, on sait tout ce qu'il embarque derrière lui, l'importance qu'il a. Et moi, vraiment, je prends plaisir à m'y replonger. Mais encore une fois, avec tout un vécu de joueur qui fait que je suis attaché de facto à cet univers, à cette ambiance, à la musique, tout ça. Enfin, les sons sont fabuleux. Il y a une vraie patte dans Shenmue. Pardon.
Moi qui n'ai pas joué à Shenmue.
Oulala.
Oulala, oui, je sais.
Quelle chance tu vas.
Du coup, tu me le conseilles de.
Alors, ça dépend justement si tu vas l'aborder sur cette. Est-ce que tu vas l'aborder avec ce regard d'historien, cette distance, en disant je sais que c'est un jeu daté, mais qui mérite quand même de. voilà, ça dépend de cette.
Je m'attends pas à un jeu actuel, absolument, mais je sais qu'il a joué un rôle quand même.
Il a joué un rôle, et quand tu l'abordes avec curiosité, justement pour comprendre tout ce qu'il a apporté.
Bah, justement,
il est fascinant.
J'aimerais bien comprendre, parce que.
Moi, je me rappelle, j'avais joué à Shenmue 2 d'abord. J'avais pas.
Oula, t'avais fait le 2 avant le 1.
Oui. Non, mais parce que j'avais pas reçu, en fait, j'avais pas Dreamcast à l'époque du 1.
Moi, j'ai quand même un faible pour le premier.
Figure-toi que j'étais Shenmue 2 et tout au début de ma carrière de critique de jeux vidéo, en fait. C'est que vu que j'ai commencé à écrire sur les jeux vidéo en 2001, j'étais pas encore.
Pour moi, le premier a vraiment un cachet très japonais, même dans la mise en scène, dans les décors. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très. Voilà, il est intéressant aussi pour ça, pour ce Japon de 86 qu'on découvre avec les bandes d'arcade de l'époque. Voilà.
Et est-ce que Shenmue a vraiment inventé le QTE ?
Non, je crois que ça existait avant, mais en tout cas, il l'a vraiment mis en scène, il l'a vraiment, il l'a vraiment intégré dans ses... Et surtout, pour moi, c'est plus que ça, c'est vraiment le côté ouverture, monde ouvert, narration que tu
t'appropries. Il y a une certaine poésie, apparemment.
Bien sûr, les musiques, etc.
Sans la poésie, j'aurais un peu plus de mal que toi, Patrick, qui a conseillé Shenmue en 2018, c'est sûr. D'autant qu'il y a un peu sa suite spirituelle qui est maintenant Yakuza. Disponible sur PC avec les Yakuza qui sont tous disponibles et
qui sont plus nerveux, qui sont beaucoup
plus nerveux. Bon, on est plus sur l'humour avec Yakuza, mais honnêtement,
il y a une lenteur. Il y a une lenteur. Là, je l'ai peut-être pas assez dit, mais Shenmue, il y a une vraie lenteur. Il y a un rythme très particulier que tu peux très vite décrocher. C'est-à-dire si tu t'attends exactement comme tu disais à un Yakuza qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus. Ouais. Attention, Shenmue 1, c'est lent. Il faut vraiment, enfin, limite tu brûles un encens à côté. Il faut se mettre dans un trip très particulier. Chez nous, mais si tu adhères, c'est inoubliable. Inoubliable.
Eh ben merci à tous les trois pour ce deuxième épisode de la saison 12 de Silence on Joue qui est arrivé. Je ne l'ai pas encore dit ici, je l'ai cité avec le podcast Les Couilles sur la Table tout à l'heure, mais on est évidemment chez Binge Audio. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin ?
Back in the 90s, I was in a famous band.
J'étais pas prêt. On la refait.
On va la refaire. Bojack Horseman, saison 5. Bojack Horseman, je t'aime, Bojack Horseman.
Attention, j'ai pas fini.
Non, mais je veux rien dévoiler, mais tout ça pour dire que c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi subtil. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Bojack Horseman est un cheval. toujours acteur, mais surtout ancienne star de la télévision, puisqu'il participait à une vieille sitcom des années 80-90 où il a été une star, puis après il a plus rien fait, donc en fait il vit un peu sur ses acquis, sur ses anciennes gloires, et donc ça raconte un peu ses névroses, son égocentrisme. C'est pas une belle personne, Bojack. C'est un mec qui a plein de problèmes, qui est alcoolique et tout ça. Et donc au bout de 4 saisons, il était déjà arrivé plein de trucs. Mais il lui arrive encore plein de trucs dans la saison 5. Et donc Bojack Horseman, c'est une belle critique de tout ce que Hollywood est, n'est pas. C'est une critique de ce qu'est soi-même Netflix aussi. Ça parle du show business, mais ça parle de choses très actuelles. Donc cette saison-là est plus axée sur des thèmes très actuels, comme Me Too par exemple.
Ouais, mais apparemment, ça a été écrit avant Me Too.
En tout cas, parce qu'il y a vraiment... j'ai fait plein de parallèles. Je fais, ça me rappelle tel événement de la vie réelle. Mais si tu me dis que ça a été écrit avant, bravo les gars, vous avez vraiment une nez creux sur ce coup-là. Donc ça parle d'événements très actuels, ça fait réfléchir. Beaucoup d'épisodes sont des épisodes qui sont basés sur un concept de scénario. Alors je vais pas révéler parce que c'est pas très amusant, mais c'était comme dans la saison 4. Alors je vais révéler un des saisons 4. Il y a un épisode de la saison 4 qui est entièrement muet, par exemple. Voilà, c'est ce genre de concept-là qu'il y a dans Bojack Horseman.
Magnifique,
ouais. Et donc faut passer outre le style graphique qui est vraiment particulier. Voilà, certaines mauvaises langues autour de moi disent on dirait du Tom Tom et Nana actualisé, mais oui, c'est un peu vrai, mais c'est pas vrai. C'est aussi très très bien joué d'un point de vue du jeu d'acteur. D'ailleurs, il y a un cast assez intéressant avec Aaron Paul qui joue Jesse dans Breaking Bad. Il y a aussi Rami Malek dans cette saison, celui qui joue Mr. Robot, qui joue une espèce de scénariste complètement shooté. Enfin, c'est très rigolo. Je vous encourage à regarder donc Bojack Horseman, c'est sur Netflix. Oh non, et c'est 12 épisodes de 26 minutes. Voilà.
Patrick.
Écoutez, moi je vais vous faire rêver, hein, parce que là pour un livre sur lequel je travaille ces temps-ci, je me suis refait le grand chelem des premières adaptations de jeux vidéo au cinéma, Super Mario, Street Fighter et Double Dragon. Et alors ce sont.
Un psy, c'était pas mieux quand même.
Non, mais justement. Non, non,
c'est
mais
se faire du mal.
À la limite, Street Fighter est encore
alors,
regardable.
Mais
non,
tu sais que. Alors justement, j'en avais évidemment une vision déplorable parce que ce sont de mauvais films, tous.
Bah, bien
mais
sûr, hein.
Malgré tout, je trouve que, tu vois, 25 ans plus tard, ils ont presque pris une patine étrange. Non, mais c'est vrai, la distance que ces films ont pu prendre avec le matériau original est assez fascinante. Notamment Street Fighter. Puis quand on se renseigne un peu sur les coulisses, c'est hallucinant, on sent que c'est vraiment des projets qu'on...
C'est là où il y avait Kylie Minogue.
Exactement.
C'est là où Dalsim est un scientifique.
Et Van Damme.
Exactement, t'as des libertés totales. Mais justement, les revoir, encore une fois, quelques années plus tard, on se rend compte que finalement, ils ont presque créé une mythologie parallèle qui est pour certains même plutôt révérée aujourd'hui. Il y a presque le Super Mario, on voit qu'il y a presque des gens qui s'intéressent aujourd'hui à ce qu'il représentait. Les produits dérivés sont parfois très chers, etc. Voilà, des vraies étrangetés. Le Double Dragon est...
Ils ont fermenté, en fait, d'une certaine manière.
En fait, peut-être qu'on est prêt maintenant à les regarder. Enfin, en tout cas, ils sont vraiment étranges. Et finalement, ils ont peut-être plus de cachet que les adaptations d'aujourd'hui, parce que c'était complètement fou, ces films.
Camille.
Oui, alors moi en ce moment, je suis en train de lire une BD qui s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». Alors ça se passe dans le Chicago des années 60. Et du coup, c'est une jeune fille de 10 ans qui adore les monstres, les créatures, les vampires, les morts-vivants et que sais-je. Et qui en fait apprend que sa voisine d'en face s'est suicidée d'une balle dans la tête. Et pour elle, c'est pas possible. Il y a forcément une autre explication avec des monstres et tout ça. Et du coup, voilà, c'est une petite fille qui essaye de s'imaginer une autre histoire et qui fait le lien aussi avec l'Allemagne nazie, hein, parce que c'est Chicago des années 60, donc il y a tout un travail sur l'histoire, tout ça. Donc, je l'ai pas fini, donc voilà. Mais le truc intéressant, c'est que l'artiste qui a créé ça, donc c'est une femme qui est tombée malade, elle s'est fait piquer par un moustique, je ne sais plus quoi, et je crois qu'elle a une méningite. Du coup, elle reste à l'hôpital pendant 3 semaines, elle rentre chez elle et elle est alitée en fait. Et elle ne sait pas quoi faire. Et du coup, elle se met à écrire un journal intime, mais avec un stylo bille. Et elle se met à dessiner. Et du coup, je vous invite vraiment à aller voir cette œuvre parce que c'est tout fait au stylo bille. C'est du dessin, du coup, avec quelques annotations. Et c'est absolument prodigieux. C'est vraiment incroyable.
Je répète le titre. Hein.
Moi, ce que j'aime, c'est les monstres.
Ah, il est trop bien, ce titre. Il est trop bien. Bon, alors, ça va faire bizarre parce que du coup, j'en ai déjà cité un. Et je vous promets, chez Binge Audio, ils ne m'ont pas obligé. Ils ne m'ont pas obligé à le faire. Ils m'ont pas. Ah, tu vois, si tu es avec nous, tu cites nos podcasts une fois par émission. Non, ce n'est pas comme ça, ça s'est passé. Mais chez Binge Audio vient de débarquer un nouveau podcast qui s'appelle Kif Taras. Et Kif Taras, c'est un podcast de Rokhaya Diallo et Grace Lee. Et donc, c'est sur. Qui sont sur l'antiracisme, sur le concept de race sociale, évidemment. Hein, on ne parle pas de race biologique qui n'existe pas. C'est très bien. Pourquoi ? Parce que ça fait déjà du bien de les entendre parler entre elles, Rokhaya Diallo et Grace Lee, parce que c'est vrai que quand on les suit sur Twitter ou quand on regarde le discours antiraciste politique hein, qui a lieu en ce moment, et c'est souvent en défense, c'est-à-dire qu'ils sont souvent face à d'autres gens qui ne sont pas d'accord avec eux, et donc ils sont sur la défensive, et puis elles le font bien, hein. Enfin, je veux dire, Rokhaya Diallo, faut pas la chercher non plus trop sur Twitter, mais elles se défendent bien, je sais pas ce que je veux dire, mais c'est toujours un discours de combat, et là elles sont entre elles, elles discutent, et elles sont totalement sereines et drôles et bonne ambiance et tout ça, mais ça fait vachement bien de justement de les entendre dans un contexte qui n'est pas un contexte violent verbalement, en tout cas d'agression, de contre-agression, de joute, exactement. Mmh. Voilà, c'est juste explicatif, c'est juste, elles racontent leur vie, elles racontent comment elles en sont arrivées là. C'est le premier épisode, évidemment. Et donc voilà, je suis très impatient d'écouter la suite. C'est sur Binge Audio et ça s'appelle Kif Taras. Voilà, c'est terminé. Merci à tous les trois d'être passés dans Silence on Joue. On se retrouve très vite pour parler jeux vidéo sur Libération, sur Binge Audio et sur les internets. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.